les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Née en 1923, morte en 1998, la psychanalyste Maud Manoni, qui dès 1948 avait travaillé avec Françoise Dolto à l'hôpital Trousseau, s'était spécialisée dans un travail en direction des enfants et des adolescents. Influencée par Winnicott et Mélanie Klein, dans le sillage de l'expérience menée à Kingsley Hall par les Britanniques Cooper et Lang, elle introduisit l'antipsychiatrie en France. En 1969, comme Fernand Deligny le fit dans les Cévennes, elle mit en pratique ses théories et ses réflexions critiques en fondant à Bonneuil, avec le docteur Robert Lefort et un couple d'éducateurs, Rosemary et Yves Guérin, un lieu d'accueil et de vie pour les enfants et les adolescents autistes, psychotiques ou souffrant de graves névroses. On peut d'ailleurs découvrir aujourd'hui encore ce qu'était l'école expérimentale de Bonneuil à ses débuts grâce au film qui tourna Guy Seligman au milieu des années 70, « Vivre à Bonneuil ». Peu de temps après l'ouverture de l'école en 1970, à l'occasion de la parution de son livre « Le psychiatre, son fou et la psychanalyse », Maud Manoni s'entretenait avec Jean Paget dans le premier volet d'une série que consacrait à l'antipsychiatrie l'émission Arcane 70 de Roger Pilaudin. Mettant en cause le rôle de la société dans la fabrication du fou, Maud Manoni y exposait ce sur quoi se fondait sa contestation de la psychiatrie et décrivait ce qu'était l'alternative proposée aux enfants accueillis à Bonneuil.
Arcane, nom masculin. Arcane, terme d'alchimie. Arcane, opération mystérieuse. Arcane, étymologiquement arcanus, secret, de arca, coffre. Arcane, qui est caché dans le coffre et par conséquent caché à tous les yeux. Arcane 70, par Roger Pilaudin.
Aujourd'hui, Arcane de l'antipsychiatrie avec Maud Manoni et Jean Paget. Maud Manoni a publié aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé « Le psychiatre, son fou et la psychanalyse » qui interroge les structures actuelles de la psychiatrie en France, qui les met en cause, les réfute et représente le premier véritable ouvrage de contestation de structures, selon Maud Manoni, parfois périmées ou malgré leur spécialisation répressive. Maud Manoni s'insurge contre le fait que l'on puisse tenir la folie pour une maladie, contre l'assimilation de la folie à une maladie. Le désordre du sujet porteur de folie, de ce qu'il est convenu d'appeler folie, n'est souvent que le reflet d'un désordre provoqué par la mauvaise organisation de notre société et pas véritablement d'un désordre purement organique ou mental. Le dire du fou accuse plus souvent la société qui l'a rendu fou et le désordre de ce dire renvoie plus souvent à l'ordre fallacieux qu'il engendre qu'à un véritable désordre. Maud Manoni demande donc à la psychanalyse l'explication du dire du fou, seule discipline, quand elle n'est pas contrainte par l'institution psychiatrique, à pouvoir livrer certaines clés d'un langage sur lequel l'auteur se penche avec passion et humanité. En raison de l'importance du sujet de ce livre, ces deux émissions qui seront consacrées aux arcanes de l'antipsychiatrie. Maud Manoni répond aux questions de Jean Paget.
Mon livre met principalement en question le savoir reçu concernant la folie. La réalité de la folie n'est pas nié pour autant. Ce qui est mis en cause, c'est son assimilation à une maladie, quand elle est bien plus tôt le dévoilement d'un désordre dont ce serait aller beaucoup trop vite que de croire qu'il se situe dans le sujet qui se trouve en être le porteur. Alors, ce que je conteste, c'est toute une conception de la normalisation qui nous amène à proposer des mesures d'adaptation là où il s'agit d'entendre la vérité qui se dégage du dire de contestation de celui que nous appelons psychotique.
Mais vous disiez, je crois, à un certain moment de votre livre, que les psychiatres refusaient souvent la folie, ou du moins qu'elle les inquiétait et qu'ils rejetaient certaines atteintes que les fous peuvent leur porter. Il y a un certain nombre de choses dites, même dans une analyse, paraît-il, qui risqueraient de compromettre l'équilibre du soignant et des soignants, et ceux-là sont amenés justement à rejeter le malade, ou du moins à l'inclure justement dans des règles très précises de soins.
C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer à quel point nos institutions sont conçues pour conserver la folie au sein d'un ordre que nous créons. La folie se fige à ce moment-là en monument pour psychiatre, et dès que la parole est donnée à la folie, tout se passe comme si, dès cet instant, c'était l'institution qui se trouvait dès lors menacée d'éclatement. Et à ce moment-là, on peut dire que pour se défendre contre la folie, elle la rejette. Ce n'est pas pour rien que des structures hiérarchiques pesantes et des structures de soins qui sont ressenties comme des pratiques punitives existent dans les institutions, conçues d'une certaine façon pour protéger les soignants contre le risque d'interpellation en eux de la folie. On peut dire que dans le mouvement psychiatrique actuel, on pourrait distinguer trois tendances. Enfin, l'une, ce qu'on pourrait nommer la psychiatrie communautaire. Pour la psychiatrie communautaire, en gros, la folie et l'antisocial. Et pour eux, la question des soins se trouve dispensée comme en médecine. Et ce qui compte, d'une certaine façon, c'est de mettre les sujets réputés psychotiques à l'abri des autres. Ils essayent de créer une sorte de micro-société qui, pour eux, a valeur thérapeutique. C'est-à-dire que pour les psychiatres institutionnels, il y a un essai de créer en quelque sorte des lieux d'accueil où la folie puisse arriver à parler. Mais la folie, néanmoins, continue à être soignée médicalement. Pour le mouvement antipsychiatrique, la folie est contre la société une protection valable, mais manquée, et elle n'a pas besoin d'être soignée. Le souci des antipsychiatres est de pouvoir créer des lieux d'accueil où la folie puisse être reçue. Et les choses sont changées radicalement lorsque nous ne mettons pas au départ nos normes à nous d'adaptation et notre conception à nous de ce qui est la norme et de ce qui ne l'est pas.
Vous parliez des soins contraignants que l'on donne justement alors dans cette psychiatrie communautaire. Quel genre de soins, quel genre de règles y a-t-il ?
Comment ça se passe ? C'est essentiellement une hyper-médicalisation, une chimiothérapie, mais non seulement une chimiothérapie souvent intensive, mais également à tout ce qui peut exister comme technique de groupe où on essaye même d'y inclure la psychanalyse, mais inclure la psychanalyse dans une conception tellement technocratique de la maladie mentale, la psychanalyse hyper complètement toute sa visée subversive première. Elle ne peut être à ce moment-là qu'en collusion avec un pouvoir établi, que tout dérèglement de la conduite inquiète.
Parce que la psychanalyse peut créer des troubles qu'à ce moment-là, la psychiatrie refuse, enfin je veux dire, à cause des règles qu'elle s'impose.
C'est-à-dire que dans la mesure où la psychanalyse arrive à libérer une parole et que cette parole se heurte à un cadre extrêmement rigide et à toute une mentalité collective face à la maladie mentale, et disons que les effets à ce moment-là, d'une interrogation analytique, risque bien plutôt de se trouver épinglé par les autres au niveau de passage à l'acte, dans la mesure où on se heurte tout de même au mur des prisons. Enfin, au mur, je viens de faire un lapsus en parlant, disant les murs des prisons, alors que c'est les murs des asiles. Et ce n'est pas rien d'ailleurs comme lapsus, parce qu'il y a toute une catégorie de psychopathes délinquants que l'on essaye de soustraire, à tort d'ailleurs, de la justice. C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire poursuivre l'itinéraire normal qui serait de répondre de menus faits délinquants devant un juge, on essaye par souci de soins de les récupérer dans des institutions psychiatriques et c'est ressenti par ces sujets comme quelque chose de pire que la pire des prisons. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Enfin, la façon dont une certaine conception des soins en psychiatrie se rapproche de pratiques punitives. Et pour cela, ben, il suffit d'écouter ce que disent les malades qui sont en position de pouvoir parler. Enfin, je pourrais...
Il y a un exemple que vous pourriez donner.
C'est-à-dire que je pourrais vous en donner plusieurs. J'ai dans ce lieu dit d'antipsychiatrie que j'ai dans la région parisienne,
que vous dirigez.
Dont je m'occupe, que je ne dirige pas. C'est un couple d'éducateurs, monsieur et madame Guérin, qui ont pris l'initiative d'ouvrir ce lieu. Et je m'en occupe, ainsi que le docteur Lefort, Françoise Dolto, nous sommes plusieurs à nous intéresser de très près à l'existence de cet endroit dans l'espoir de pouvoir créer d'autres lieux qui seraient une possibilité, rien d'autre qu'une possibilité d'accueil dans une maison de banlieue d'enfants, mais on peut le faire également pour des adultes, mis en situation de vivre une expérience de vie communautaire où ils ont en main l'organisation de la vie de la maison. C'est eux qui font les courses, la cuisine, même au prix de fugue, soumis à tous les aléas des difficultés des uns et des autres. Et alors c'est assez extraordinaire de voir comment un de ces enfants, par exemple, étiqueté psychose paranoïaque, est arrivé là en septembre. Donc nous n'avons pas d'école, nous refusons l'enseignement, mais tout de même, nous sommes à la disposition des enfants qui pourraient manifester un désir de savoir. Et cet enfant étiqueté psychose paranoïaque, au départ, s'est dit, mais enfin, quel endroit? cet endroit où il n'y a pas de maître. Et il s'est, à ce moment-là, il s'est institué le maître, il est devenu enseignant des autres. Et pendant un mois, tous les jours, il a réuni pendant une heure des enfants de 5 à 14 ans dans un silence religieux. Et il leur a fait un cours sur les protozoaires pendant un mois, régulièrement. Au bout de ce mois, il leur a fait ce que les maîtres ont dû lui faire, c'est-à-dire qu'il leur a dit qu'ils étaient vraiment tous beaucoup trop nuls pour qu'ils continuent à se fatiguer avec eux. Et à ce moment-là, il s'est institué professeur de lui-même et il a appris le russe en 3 mois de temps. Il a d'ailleurs appris le russe beaucoup plus avec la musique russe, enfin les chansons russes qu'avec les disques classiques. Et mon Dieu, donc au bout de 3 mois, il écrit et il lit correctement le russe. Et au mois de mars, on cause tout de même pas mal dans cette maison. Enfin, la question qu'il y ait un jour un bachot nécessaire a été resoulevée par lui. Et au mois de mars, on l'a mis à sa demande au cours par correspondance avec l'éducation nationale. Et chose très curieuse, ces cours, c'est la nuit qu'il y travaille entre 10 heures du soir et 1 heure du matin, parce que pendant le jour, dit-il, il a bien trop de choses intéressantes à faire. Enfin, je veux dire, cet exemple, faire penser pas mal de choses sur le plan de l'enseignement.
Et vous disiez justement qu'on vous envoyait des enfants qui étaient étiquetés. Alors, qui procède à cet étiquetage?
Les psychiatres, c'est généralement des enfants qui ont fait plusieurs hôpitaux de jour, qui ont été vus par plusieurs psychiatres. Donc, pour certains, même un lit avait même été réservé dans un hôpital psychiatrique. Et un de ces enfants est surnommé l'étrangleur. Et c'est avec des cas que certains appellent la psychiatrie lourde que nous nous coltons. Et c'est très intéressant de voir combien les enfants eux-mêmes créent tout un mécanisme d'exclusion. C'est-à-dire que le problème de la ségrégation n'est pas un problème purement politique. Il est au cœur de nous-mêmes, comme la folie est au cœur de nous-mêmes. Et c'est très intéressant de voir combien les enfants eux-mêmes créent par moments un discours collectif absolument pathogène, qui est la reproduction du discours familial, et où, à certains moments, tout se passe comme si c'était plus possible de continuer à vivre là et qu'on ne pouvait continuer à vivre là qu'au prix du rejet d'un enfant. Et ce qui arrive en fait dans les familles où si un se trouve à l'asile, le reste peut continuer à vivre en paix. Et ce qui est important dans ce que nous avons institué comme porte ouverte, c'est-à-dire comme possibilité de créer un lieu d'accueil, mais aussi lieu qui ne soit que lieu de passage. Donc surtout pas un lieu où dès qu'on y entre, on y est refait comme un rat dans des structures de soins où on ne peut en sortir que quand on est à nouveau étiqueté normal. On laisse continuellement cette possibilité de fuite à l'extérieur, c'est-à-dire que nous travaillons à ce moment-là avec Deligny qui est un éducateur un petit peu anarchisant, qui habite dans les Cévennes et qui, dès les années 28, a mis en lumière combien le milieu est langage ou n'est pas. C'est-à-dire que dès que le langage, le discours collectif devient un discours meurtrier, il n'y a plus de milieu, autant se sauver de là. Et alors il a institué des possibilités d'accueil dans des familles d'ouvriers ou bien sous tente dans les Cévennes où on peut envoyer comme ça quelqu'un qui brusquement rend la situation complètement invivable à tous. Mais de pouvoir aller jouer sur l'autre scène, qui est pour Freud la scène du rêve, pouvoir jouer ailleurs tout ce qu'il a besoin d'exprimer comme banditisme ou comme folie meurtrière, c'est extrêmement important. Enfin, ça lui permet ensuite de revenir en ayant tout à fait une autre parole. Enfin, j'ai là l'exemple en tête d'un enfant étiqueté étrangleur dont nous nous sommes occupés pendant un trimestre, c'est-à-dire pendant, quand il est venu, les autres enfants savaient que si on ne le tolérait pas, il serait renvoyé à l'hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, enfin, les enfants ont tous pu se déguiser, si vous voulez, en soignant, entre guillemets, c'est-à-dire prêts à en supporter pas mal pour que l'autre puisse en fait vivre. Et cet enfant a beaucoup fugué. On le surnommait l'étrangleur parce que, mon Dieu, il y avait des impulsions par moment d'étrangler comme ça les petites vieilles du coin. Et cet enfant, à un moment donné, avait pas mal changé et puis c'est devenu brusquement très lourd pour le groupe et on a pu voir cela au niveau des mutiques qui commençaient, les enfants autistiques et qui, sentant à un moment donné ce discours collectif meurtrier, ont commencé à se mutiler et on peut dire que c'est ça qui, pour nous, est vraiment le baromètre, c'est-à-dire que quand les mutiques vont moins bien, on peut être sûr que le discours collectif est un discours insensé. Et c'est important de pouvoir préserver un langage qui se tienne pour qu'une parole folle puisse prendre sens. Et à ce moment-là, on l'a envoyé, l'enfant en question, chez Deligny, qui, quand il est arrivé là, a commencé à casser tous les carreaux du village. Les enfants des écoles se sont sauvés. Le garde champêtre, qui n'avait plus mis son képi depuis 20 ans, l'a mis. Enfin, puis au bout de 8 jours, il était la terreur. C'est-à-dire, il mettait en acte l'étiquette qu'il avait reçue, et tellement reçue, cette étiquette-là, que c'est toujours d'abord comme ça qu'il se présente. Et ensuite, on l'a envoyé camper dans la forêt, où là, il se trouvait à ne pouvoir pas nuire. Il était seul, avec un aîné de 20 ans qui campait là avec lui. Et puis, on peut dire que c'est ensuite qu'il a amorcé une période dépressive et qu'il a pu à nouveau avoir du cœur. Et en ayant du cœur, repenser un petit peu tout ce qui s'était passé là pour lui. Et alors les enfants ont comme ça cette possibilité d'être là, et puis quand ils ne veulent plus être là, d'aller ailleurs.
Mais ce que vous dites à propos des enfants doit être possible, parce qu'ils ne peuvent pas être réellement dangereux, comme le cas de cet étrangleur dont vous venez de parler. Est-ce qu'on pourrait laisser en toute liberté les adultes? Est-ce que c'est possible?
C'est-à-dire que cet enfant-là, étrangleur, avait bien été l'objet d'un certificat dangereux pour lui-même et pour les autres, et un certificat entièrement correct, parce qu'en effet, il était dangereux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a rendu dangereux. C'est ça qui nous échappe totalement. C'est-à-dire que la folie, ça se développe avec quelqu'un d'autre. Et c'est évident que la question serait trop simple s'il suffisait d'ouvrir les portes des asiles pour que tout aille bien. C'est pas vrai. Simplement, ce qui est en question à travers mes livres, c'est qu'il y a à pouvoir changer radicalement toute une mentalité collective à l'égard de la folie, mentalité collective qui fait que même dans les pays dits révolutionnaires, il y a des endroits où mettre notre propre refoulé, qui sont les asiles, où là, si c'est lui qui est fou, c'est pas nous. Et ce qui est important, c'est que si on pouvait généraliser beaucoup plus des possibilités de lieux d'accueil, de lieux de vie, dans des endroits où les gens sont peu nombreux, eh bien, un grand pas serait fait, parce que on oublie à quel point c'est toujours dans une situation de stress du malade avec l'ambiance et sa famille, qu'à un moment donné, il se trouve éjecté à l'asile. Et à l'asile, les psychiatres font ce qu'ils peuvent. Ils sont piégés dans les structures même de l'internement. Alors, pour ce qui est de ce que c'est, par exemple, que l'arriération, ben je pourrais donner un aperçu de ce qui en est dit par des enfants étiquetés arriérés.
Oui, vous avez dit une chose très intéressante pour moi et pour les auditeurs. Vous avez parlé de discours de la folie, vous avez dit plusieurs fois qu'il faut laisser parler la folie, il faut que la folie soit parlée.
Oui, c'est important parce que dans notre société occidentale, nous ne donnons à la folie le droit de parler que dans les murs de l'internement, où là, on ne peut pas dire que la folie parle. La folie est parlée suivant notre représentation de la folie. C'est-à-dire que quand on arrive là, on est comme au théâtre, enfin un théâtre qui n'est pas très gai, où les malades donnent à voir la folie telle que nous sommes censés la concevoir. C'est-à-dire que ce n'est plus le dire vrai de la folie, c'est la façon dont elle est devenue. Monument pour psychiatres et monument, comme disent certains, il faut bien pouvoir alimenter les thèses médicales. Et qu'est-ce qu'on deviendrait, nous, si on n'avait plus les soignants à amuser?
Ce sont les malades qui disent souvent ça.
Ce sont les malades qui disent ça et qui sont extrêmement conscients de la façon dont ils sont là. Et la chose extrêmement grave dans la façon dont, sur le plan médico-administratif, les structures de soins sont pensées pour les enfants, c'est que les réformes, disons, psychiatriques vont dans un sens qui, pour nous, analystes, est extrêmement inquiétant, parce qu'on va vers un hyper-dépistage en hygiène mentale. Et le dépistage en hygiène mentale est pour nous pathogène par excellence. Et on va vers une hyper-sélection où, dès la maternelle, on risque de d'épingler tel enfant qui a l'air bizarre. Et ce tel enfant qui a l'air bizarre risque de se trouver épinglé et parqué dans des structures adéquates pour recevoir ce que nous concevons comme anormal et de faire une carrière à ce moment-là de malade mental. Le très gros risque, c'est de donner corps à ce qui est un rêve pour certains, c'est de créer un jardin d'enfants pour enfants inadaptés, avec tout un circuit d'inadaptation et qui déboucherait finalement sur l'usine pour handicapés à tarif dégressif selon le degré de l'handicap. Et on peut dire que ça, ben, c'est le plus grand scandale de notre époque. Et qu'on peut être certain qu'à agir comme cela, nous allons créer une nouvelle maladie psychiatrique, maladie qui sera née de notre conception absolument ségrégative de la maladie mentale. Alors, je peux, si vous voulez...
Oui, vous parliez justement, vous disiez que vous aviez recueilli un certain nombre de mots d'enfants, de phrases dites par des enfants qui avaient été étiquetés, et je crois que ces mots sont intéressants à écouter maintenant.
Alors, ce que je peux vous lire là, c'est un compte-rendu sténographié d'une séance du conseil. Alors, deux fois par semaine, les enfants se réunissent avec les adultes sous la présidence d'un enfant. Et on parle comme ça de choses et d'autres. Et il se trouve que j'ai une séance là qui pourrait être intitulée l'arriération. J'en ai une autre qui pourrait être intitulée la ségrégation. Et où, à travers ça, on entre véritablement dans un autre monde. Ça commence ainsi. Il y a Rosemary qui dit, mais il y a eu hier deux contes, l'un qui s'appelait le loup stupide et l'autre au temps où hommes et bêtes se parlaient. Mais les enfants n'ont plus voulu jouer. Alors je demande, mais qui était ce loup stupide ? Irène. C'est un loup qui comprenait rien à rien. Il avait faim, il était perdu. Pierre. Le loup était stupide. Moi. Qu'est-ce que ça veut dire, stupide ? Pierre. Deux. Parce qu'il y a deux Pierres. C'est quelqu'un qui raconte du baratin. Et moi. Qu'est-ce qu'il faisait, le loup stupide ? Paul. Ben, il était stupide. Moi. Mais encore, tu jouais le loup stupide. Ça ne veut pas dire que tu l'étais. Tu jouais le loup stupide. Mais j'aime pas parler du loup stupide, dit un autre enfant. Il avait les oreilles bouchées, il était bête et il se faisait toujours avoir. Alors, un des stagiaires pose la question, mais comment peut-on être idiot? Pourquoi? Comment? Un énorme silence. Mais je dis, c'est une question qu'on pose. Alors, il y a un enfant qui dit, ben, en imitant Louis Benoît. Louis Benoît, c'est un enfant mutique. Alors, je pose la question, mais c'est un loup qui se faisait toujours avoir, qui a choisi d'être idiot. Alors, un enfant m'interrompt et dit, ben, comme ça, il avait la paix au moins. Et je demande, ben, qu'est-ce qu'on y gagne? Pierre répond, de l'argent peut-être. Alors, c'est Jacques qui est étiqueté psychose paranoïaque, les autres étant des débiles avec des quotients de 60. Lui, Jacques, psychose paranoïaque, va nous donner la définition de l'arriération. Il se lève et il dit, « Moi, je voudrais donner la définition de l'idiot. C'est pas de l'argent que l'idiot cherche à gagner, c'est de l'amitié. Il faut distinguer entre les idiots de nature et les idiots qui jouent à l'être. » Et moi, je lui dis, mais comment tu fais la différence? Ben, il me répond, ben, on pose une question. 10 × 10, l'idiot de nature, il ne sait pas. L'idiot qui joue, il fait exprès de donner une mauvaise réponse, parce qu'il a peur de donner une réponse mortelle. Alors moi, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas des idiots qui jouent à l'être, mais qui croient quand même qu'ils sont idiots de nature? Jacques. « Ah oui, dit-il, il y a ce processus, ce mot qu'il emploie aux grandes personnes. Ça vient du professeur qui vous dit « Vous êtes bon à rien, vous êtes des minus, vous vivrez dans un bidonville. Alors, à force d'entendre, tu es idiot, on le devient. C'est ce qui est arrivé à Pierre. » Alors Pierre répond « J'étais dans une école d'État. Le professeur Marteau, il avait besoin d'un enfant marteau pour que lui ne se sente pas marteau. Il faisait des fautes d'orthographe. C'est inquiétant, un professeur comme ça. Alors il tape, et moi je lui ai tapé dessus. Il a failli mourir, ce qui est vrai d'ailleurs. » Alors Jacques, mais Pierre a tapé parce qu'il a été provoqué. Pierre, il m'a tiré les oreilles. Jacques, dans une école d'État, c'est interdit. Alors moi j'interviens en disant que mon Dieu, on a plutôt revisé ces règles-là, qu'on se dit, mon Dieu, qu'à la maison, les enfants reçoivent tant de tournées que s'ils en reçoivent un peu en classe, c'est pas si terrible. Alors Jacques dit, je suis contre la violence. Et un des enfants répond, mais on rend un enfant dingue comme ça. Et puis après, on s'étonne qu'il étrangle les gens. Mais on l'a rendu étrangleur. Un autre intervient et dit, mais le gars, il se dégoûte de vous. Il devient dangereux par dégoût. « Ce qui fait du mal, dit un autre, c'est pas seulement les coups, mais c'est les paroles qui tapent comme des coups, les paroles injustes. C'est l'injustice qui rend dingue dangereux. »
C'était le premier temps de l'antipsychiatrie avec Maud Manoni au micro de Jean Paget dans Arcane 70 de Roger Pilaudin. diffusée la première fois le 10 septembre 1970 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.